Les 39 marches. Chapitre 4. L'aventure du candidat du Parti radical. Par une nouvelle matinée radieuse, je poussais cette voiture de 40 chevaux au maximum de ce qu'elle pouvait donner sur les chaotiques routes de la lande. Dans les premiers temps, à chaque virage, je surveillais anxieusement mes arrières en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Mais bientôt, je conduisis en étant plus détendu, suffisamment attentif pour maintenir l'auto sur la route. Car je pensais obstinément à ce que j'avais découvert grâce au calepin de Scudder. Le petit bonhomme m'avait raconté tout un tas de balivernes. Toutes ces histoires au sujet des Balkans, des Juifs anarchistes, de la conférence du Foreign Office, ainsi que ses propos sur Karolides, n'étaient que de la poudre aux yeux. Pas totalement, cependant, comme on le vérifiera par la suite. J'avais accordé une foi totale à ses propos, et il m'avait bien baladé. Son calepin me donnait une toute autre version, et au lieu de me dire « chat échaudé craint l'eau froide », je croyais sans réserve ce que je venais de lire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ses informations paraissaient tellement convaincantes, et sa première version était, si l'on peut dire, vraie dans l'esprit malgré sa fausseté. Le 15 juin devait être décisif, bien plus que l'assassinat d'un étranger. Au regard des enjeux, je ne pouvais blâmer Scudder de s'être préservé le premier rôle et de m'avoir tenu à distance. Je ne doutais nullement que ce fût là son intention. Ce qu'il m'avait dit était déjà assez extraordinaire, mais la réalité l'était bien davantage, et l'ayant découverte, il tenait à en conserver l'exclusivité pour lui. Je ne lui en voulais pas. En somme, ce qu'il recherchait avant tout, c'était les poussées d'adrénaline. Ces notes renfermaient l'intégralité de l'histoire, avec des lacunes, bien entendu, qu'il pensait compléter de mémoire. Il y reportait également ses sources. Par une manie singulière, il leur avait attribué des points dont le cumul donnait, pour chaque développement de l'histoire, un degré de crédibilité. Les quatre noms inscrits en caractères ordinaires étaient ses informateurs. Il y avait également un certain Ducrone, lequel obtenait la note maximale de 5/5, et un certain Amersfoort, qui n'obtenait que 3 points. Le calepin renfermait toutes les données essentielles de l'affaire, et, de plus, une formulation étrange revenait une dizaine de fois entre guillemets. 39 marches. La dernière fois qu'il l'utilisait, il la complétait ainsi. 39 marches, je les ai comptées. Marée haute à 22h17. Je ne voyais pas ce que je pouvais tirer de ça. La première chose que j'appris fut qu'il ne pouvait être question d'empêcher la guerre. Celle-ci serait déclarée de façon aussi sûre que Noël tombe le 25 décembre. Scudder affirmait que cela avait été décidé depuis février 1912. L'assassinat de Karolides serait l'élément déclencheur. Son sort était réglé et il serait abattu le 14 juin, c'est-à-dire dans 2 semaines et 4 jours. Des notes de Scudder, j'en conclus que rien au monde ne pouvait s'y opposer. Son histoire de gardes et pirotes qui tueraient père et mère était également une grosse plaisanterie. La seconde chose que j'appris, c'est que le déclenchement de cette guerre produirait une totale stupéfaction en Angleterre. La mort de Karolides mettrait les balcons à feu. Vienne lancerait un ultimatum, ce qui irriterait la Russie, et il s'ensuivrait un échange d'invectives. Berlin jouerait le pacificateur tout en couvant le feu sous la braise. Et, au moment opportun, le premier prétexte serait utilisé pour déclencher une opération contre nous dans les 5 premières heures. Il faut reconnaître que le plan était remarquablement mis au point. D'abord des discours lénifiants, puis une attaque foudroyante. Pendant que nous débattions sur les intentions pacifiques de l'Allemagne, notre littoral serait insidieusement ceinturé de mines et de sous-marins prêts à l'attaque. Cependant, tout cela dépendrait d'un troisième événement qui devait se produire le 15 juin. Si je n'avais fait jadis la connaissance d'un officier de l'état-major français de retour d'Afrique occidentale qui m'avait ouvert les yeux sur plusieurs points, je n'y aurais rien compris. Celui-ci m'apprit, entre autres choses, qu'en dépit de toutes les absurdités dites au Parlement, il existait une alliance effective entre la France et l'Angleterre. Les deux états-majors se rencontraient de temps à autre et prenaient des mesures en vue d'une action concertée en cas de guerre. Or, en juin, un personnage éminent devait venir de Paris. Il devait se faire remettre rien de moins que les plans de mobilisation de la flotte britannique. Du moins, je compris qu'il s'agissait de quelque chose de ce genre, en tout cas d'un document de la plus grande importance. Le 15 juin, il se trouverait d'autres individus à Londres, et sur cela, je ne pouvais faire que des conjectures. Scudder se bornait à les appeler collectivement la pierre noire. Il représentait non pas nos alliés, mais nos pires ennemis, et c'était dans leur poche qu'allaient tomber les documents destinés à la France. Cela aurait pour conséquence, que l'on s'en souvienne, que 1 à 2 semaines plus tard, dans la quiétude d'une nuit d'été, il y aurait soudainement des coups de canon et des torpilles mises à feu. Telle était l'histoire que je venais de déchiffrer dans une rustique chambre d'auberge avec vue sur un jardin potager, telle était l'histoire qui me bourdonnait dans la tête tandis que je lançais de vallon en vallon la puissante voiture de tourisme. Mon premier mouvement était d'écrire une lettre au Premier ministre, mais un peu de réflexion me fit comprendre la puérilité de cette initiative. Qui pouvait croire à un tel salmigondi? Pour cela, je devais exhiber un indice, une preuve, et Dieu sait que j'en étais totalement incapable. Avant tout, je devais me maintenir en vie moi-même et me tenir prêt à agir au moment voulu. Cette tâche ne m'était pas facile, étant recherché par la police britannique et ayant à ma suite les sentinelles de la pierre noire qui se déplaçaient vite et furtivement à travers la campagne. À défaut d'un but déterminé, je dirigeais ma course vers l'est d'après le soleil. En effet, la carte m'avait appris qu'en allant au nord, j'aboutirais à une région minière peuplée de villes industrielles. Je ne tardais pas à quitter les collines de Bruyères pour m'engager dans une large vallée. Sur un parcours de plusieurs miles, je longeais rapidement le mur d'un parc. Dans une trouée d'arbres, j'aperçus un grand château. Je traversais de vieux villages à toits de chaume, passais par-dessus de paisibles cours d'eau et devant des jardins éclatants d'aubépines et de jaunes cities. Une paix si profonde enveloppait les paysages que j'avais peine à penser que, quelque part derrière moi, il y avait des gens acharnés à ma perte, et qu'en outre, d'ici un mois, à défaut d'un avantage inopiné pour moi, ces faces réjouies de villageois, serait défaite et hagarde, et que des cadavres joncheraient les plaines anglaises. Vers midi, j'arrivai dans un village aux maisons éparses où je fus tenté de faire halte pour déjeuner. Au beau milieu de la rue se trouvait le bureau de poste. Sur les marches, la receveuse, penchée sur un télégramme, tenait compagnie à un policier. Ils eurent un sursaut en m'apercevant, et le policier leva le bras et me cria de stopper. Je faillis commettre la bêtise d'obtempérer, mais dans un éclair, je compris que le télégramme me concernait. Mes bons amis de l'auberge tenaient à m'être présentés, et il leur avait été facile de télégraphier mon signalement et celui de l'auto auprès de la trentaine de villages que j'étais susceptible de traverser. J'arrêtai de freiner à temps. Le policier avait agrippé la capote et il ne lâcha prise qu'après avoir reçu dans l'œil mon poing gauche. Je compris que je devais m'abstenir de circuler sur les grands axes et devrais me satisfaire des chemins de traverse. Sans carte, ce n'était pas facile. Je risquais de tomber sur un chemin de ferme qui me conduirait directement dans une mare aux canards, dans une cour d'écurie. Je ne pouvais m'offrir ce genre de distraction. Je compris aussi quelle erreur j'avais commise en volant l'auto. Cette grosse machine verte était le plus sûr moyen de me faire repérer sur tout le territoire écossais. Et si je l'abandonnais pour continuer à pied, on la découvrirait au bout d'une heure ou deux, et mon avance était perdue. La première chose à faire était d'emprunter les routes les plus désertes. J'en trouvai bientôt une à proximité d'un grand cours d'eau, et m'engageai dans une gorge cernée de parois abruptes, au-delà de laquelle une route en zigzag grimpait à un col. Je n'y rencontrai personne, mais comme elle conduisait trop au nord, j'obliquai vers l'est par un mauvais sentier et j'aperçus finalement une grande ligne de chemin de fer à double voie. Derrière celle-ci, je découvris une autre vallée assez large et supposai qu'en la traversant, je pourrais trouver une auberge isolée où passer la nuit. Le soir tombait et la faim me torturait. Depuis le matin, je n'avais rien mangé à part deux brioches achetées à un boulanger ambulant. À cet instant, un brombissement me fit lever la tête. Bon sang ! Cet aéroplane diabolique était là, volant bas, à une dizaine de miles dans le sud, et venant rapidement dans ma direction. J'eus la présence d'esprit de me rappeler que, sur la lande nue, j'étais à la merci d'un avion et que mon unique espoir était d'atteindre le couvert des arbres dans la vallée. Du haut en bas de la colline, je filais comme le tonnerre, tournant la tête chaque fois que je le pouvais, pour surveiller cette satanée machine volante. J'arrivai bientôt sur une route entourée de haies qui plongeait vers le ravin encaissé d'un cours d'eau. Puis vint un petit bois touffu où je ralentis l'allure. Soudain, sur ma gauche, j'entendis le coup de klaxon d'une auto et vis avec horreur que j'arrivais à la hauteur de plusieurs portails résidentiels donnant accès à des chemins privés. Mon klaxon émit un rugissement désespéré. Il était trop tard. Je bloquai les freins, mais la vitesse m'emporta, et devant moi, l'auto surgit en travers de ma route. Une seconde de plus, et nous n'étions plus que deux tas de ferraille. Je fis la seule chose qu'il me restait à faire, et jetai mon véhicule dans la haie de droite, espérant tomber sur quelque chose de mou au-delà. Vain espoir! Ma voiture entra dans la haie comme dans du beurre et piqua de l'avant en un plongeon vertigineux. Voyant ce qui se passait, je bondis de mon siège pour m'éjecter. Par chance, une branche d'aubépine m'attrapa en pleine poitrine, me souleva et me retint, cependant qu'une tonne ou deux de métal coûteux filait sous moi Ce cabran est tombant d'une hauteur de 50 pieds dans le lit d'un ruisseau avec un fracas formidable. Peu à peu, la branche ploya. Elle me déposa délicatement d'abord sur la haie, puis de là sur un berceau d'orties. Comme je reprenais pied, une main me saisit par le bras et une voix compatissante autant qu'effrayée me demanda si j'étais blessé. Je me trouvais en présence d'un grand jeune homme en paletot de cuir et avec des lunettes d'automobiliste, maudissant sa maladresse et se confondant en excuses sans discontinuer. Pour ma part, dès que j'eus repris mes esprits, j'éprouvais plutôt du soulagement. C'était là une façon comme une autre de me débarrasser de la voiture. « C'est de ma faute, monsieur, lui répondis-je. C'est une chance que je n'ajoute pas un homicide à mes autres folies. C'est la fin de ma randonnée écossaise en auto, mais ça a failli également être la mienne. » Il sortit sa montre, calcula le temps qu'il lui restait et dit « Vous avez une façon philosophique de considérer les choses. J'ai un quart d'heure devant moi et mon logis n'est qu'à 2 minutes d'ici. Je vous propose de nous y rendre. Vous pourrez changer de vêtements, manger quelque chose, et je peux vous offrir le gîte. Au fait, où est votre bagage? Est-il tombé au fond du ravin avec la voiture? Il est là, dans ma poche, répliquai-je, en exhibant une brosse à dents. Je reviens des colonies, et je voyage léger. Un colonial? S'écria-t-il. Bon Dieu, vous m'êtes envoyé par le ciel! Par un hasard extraordinaire, seriez-vous partisan du commerce en libre-échange ? Je le suis, répondis-je, sans voir où il voulait en venir. Il tapota mon épaule et me fit monter dans sa voiture. 3 minutes plus tard, nous avions rejoint un pavillon de chasse d'aspect cossu et dissimulé parmi les pins, où il me fit entrer. Il me conduisit d'abord dans une chambre à coucher et étala devant moi une demi-douzaine de ses complets, car le mien était en lambeaux. J'en revêtis un, confortable, en serge bleue, qui différait totalement de mes vêtements précédents, et lui empruntai un col raide. Ensuite, il m'entraîna vers la salle à manger où les reliefs d'un repas garnissaient la table. Il me déclara que j'avais 5 minutes pour me nourrir. « Emportez un sandwich, nous souperons au retour. Je dois être à 20 heures au Masonic Hall, sinon mon agent électoral me tirera les oreilles. » J'arrosai d'une tasse de café un morceau de jambon froid, tandis qu'il bavardait debout devant la cheminée. « Vous me voyez bien embarrassé, monsieur. À propos, vous ne m'avez pas encore dit votre nom ?»« Twisdon. » »« Une parenté avec le vieux Tommy Twisdon du 60e ?»« Non ?» Eh bien, voyez-vous, je suis le candidat libéral de la région. J'ai assisté cet après-midi à une réunion à Brattleburn, la capitale régionale, redoutable bastion du parti Tory. J'ai obtenu de Crumpleton, l'ex-premier ministre des colonies, qu'il vienne me soutenir ce soir. Il a fait afficher la réunion partout et il a bien préparé le terrain. Mais cet après-midi, j'ai reçu un télégramme de ce coquin qui me dit qu'il a attrapé la grippe à Blackpool. Et me voilà en plan, obligé de tout faire moi-même. J'avais l'intention de ne parler que 10 minutes, et il faut maintenant que j'en tienne 40. Bien que je me sois trituré les méninges pendant 3 heures, je me sens incapable de tenir autant de temps. Pourriez-vous m'apporter votre concours? Puisque vous êtes partisan du libre-échange, vous saurez expliquer quelle perte sèche le protectionnisme produit dans les colonies. Tous les types comme vous sont des orateurs nés, ce qui n'est hélas pas mon cas. Je vous en serai éternellement redevable. D'une façon ou d'une autre, j'avais peu de connaissances sur le libre-échange, mais je ne voyais pas d'autre moyen pour me sortir de cette situation. Mon jeune gentleman était beaucoup trop absorbé par ses propres soucis. Il ne pouvait s'aviser de l'incongruité de demander à un inconnu, venant d'échapper à la mort et de perdre une auto de 1000 guinées, de prendre la parole à sa place dans une réunion sans y être préparé. La nécessité m'interdisait de m'apesantir sur ces bizarreries aussi bien que sur l'impossibilité de choisir mes propres partenaires. « C'est d'accord, répliquai-je. Je ne suis pas un fameux orateur, mais je leur raconterai ce que je sais sur l'Australie. » Ces propos lui ôtèrent un fardeau de ses épaules, et il me remercia avec enthousiasme. Il me prêta un ample manteau de voyage. Pas un seul instant, il ne s'était avisé de me demander pourquoi j'avais entrepris un périple en auto sans me munir d'un pardessus. Et, tandis que nous filions sur les routes poussiéreuses, il me raconta son existence en toute simplicité. Orphelin, il avait été élevé par son oncle. J'ai oublié le nom de ce dernier, mais il faisait partie d'un cabinet ministériel et chacun a pu lire ses discours dans la presse. Après Cambridge, il fit le tour du monde, puis, comme il cherchait sa voie, son oncle lui conseillait la politique. Je crus comprendre qu'il n'avait pas de conviction arrêtée. D'un ton cordial, il me dit « Il y a de braves types dans les deux camps et des tas de fripouilles aussi. Je suis libéral parce que, dans ma famille, on a toujours été whig. » Mais, malgré sa tiédeur en politique, il avait des idées bien établies sur certains sujets. Il découvrit que je m'y connaissais un peu en chevaux et il s'étendit longuement sur les partants du derby. Il avait également plein d'idées pour améliorer son tir à la chasse. Somme toute, un jeune homme très franc, honorable et naïf. Comme nous traversions une petite ville, deux policiers nous arrêtèrent et braquèrent sur nous leurs lanternes. « Excusez, Sir Harry, dit l'un d'eux, nous avons reçu l'ordre de rechercher une auto dont le signalement correspond à peu près à la vôtre. »« Pas de problème, répliqua mon hôte. » Tandis que je remerciais la Providence de me procurer mon salut par des voies détournées. Après cela, il cessa de me parler, car il commençait à ressasser laborieusement son prochain discours. Ses lèvres s'agitaient sans cesse, son regard errait, et je m'attendais presque à une nouvelle catastrophe. Je tâchais de penser à ce que j'allais dire moi-même, mais j'avais la cervelle plus aride qu'un caillou. Je m'aperçus soudain que nous étions dans une rue, arrêtés devant une porte, accueillis par de démonstratifs messieurs, des rubans à la boutonnière. La salle contenait environ 500 personnes, dont beaucoup de femmes, une collection de crânes chauves, et deux ou trois douzaines de jeunes gens. Le président, un pasteur au visage sournois et au nez couperosé, déplora l'absence de Crumpleton, épilogua sur sa grippe et me délivra un certificat de maître incontesté de la pensée australienne. Il y avait à la porte deux agents de police et j'espérais bien qu'il prenait note de ce témoignage. Après quoi, Sir Harry commença son discours. « Je n'ai jamais rien entendu de semblable. Il ignorait le principe premier de l'art oratoire. Il avait devant lui une montagne de notes dont il lisait des passages, et lorsqu'il s'en écartait, il tombait dans un bégaiement prolongé. De temps à autre, il récitait une phrase apprise par cœur et, bombant la poitrine, il la débitait à l'instar de Henry Irving, l'acteur anglais, puis tout aussitôt il se courbait en deux, bredouillant sur sa paperasse. C'était d'ailleurs un galimatias effarant. Il parla de la menace allemande et la qualifia de simple invention des Tories pour dépouiller le pauvre peuple de ses droits et refouler la vaste marée des réformes sociales. Heureusement, le prolétariat conscient et organisé s'en rendait compte et riait de ces méprisables Tories. Il était favorable à la proposition de réduire notre marine en gage de bonne volonté, puis d'envoyer un ultimatum à l'Allemagne, lui enjoignant de nous imiter, faute de quoi nous lui tomberions dessus. Il affirma que, sans les Tories, l'Allemagne et la Grande-Bretagne travailleraient en frères pour la paix et le progrès. Je songeais au petit calepin noir dans ma poche. Ah, ils s'en souciaient bien de la paix et du progrès, les amis de Scudder. Mais, de façon étrange, son discours me plut. On percevait la sincérité de ce garçon à travers le charabia dont on l'avait gavé. Son discours leva toutes mes craintes. Certes, je ne valais pas grand-chose en tant qu'orateur, mais j'étais quand même à 1000 lieues de Sir Harry. Quand vint mon tour, je ne m'en tirais pas trop mal. Je racontais simplement, priant pour qu'il n'y ait aucun Australien dans la salle, tout ce dont je pus me rappeler sur l'Australie concernant son parti socialiste, ses services d'émigration et son service public. Je ne me souviens pas avoir abordé le libre-échange, mais j'affirmais qu'en Australie, nous n'avions pas de Tories et rien que les partis travaillistes et libérales. Cela souleva une acclamation qui devint de l'enthousiasme quand je leur exposai les affaires florissantes qui, selon moi, pouvaient être faites hors de l'Empire britannique si nous nous décidions à donner un bon coup de collier. Bref, j'imagine que ce fut plutôt un succès. Le pasteur ne m'apprécia pas cependant, et en proposant un vote de félicitations, il déclara digne d'un homme d'État le discours de Sir Harry et le mien éloquent à la manière d'un prospectus d'émigration. Lorsque nous reprîmes place dans la voiture, mon hôte ne se tenait plus de joie d'en avoir fini avec cette corvée. « Rudement bien votre discours, Twisdon, dit-il. Et maintenant, vous allez revenir à la maison avec moi. J'y vis seul, et si vous consentez à rester un jour ou deux, je vous montrerai comment pêcher convenablement. » On nous servit un souper chaud, ce dont j'avais le plus grand besoin, après quoi nous bûmes des grogs dans un fumoir vaste et gai, devant un feu de bois crépitant. Je jugeai l'heure venue de mettre carte sur table. Le regard de cet homme me disait que je pouvais me fier à lui. « Écoutez-moi, Sir Harry, commençai-je. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes un jeune homme sympathique, et je serai franc avec vous. Où diantre avez-vous pris le fétide galimatia que vous venez de débiter ce soir ?» Ses traits se décomposèrent. Il demanda d'un air atterré « Était-ce donc si mauvais que ça ?» Cela ne me paraissait qu'un peu faible. J'en ai tiré le plus gros du Progressive Magazine et de brochures que mon agent électoral ne cesse de m'envoyer. Mais croyez-vous réellement que l'Allemagne irait jusqu'à nous faire la guerre ? Posez cette question dans 6 semaines et la réponse vous aura été donnée, fis-je. Si vous voulez bien me prêter votre attention une demi-heure, je vais vous dire ce que je sais. Je crois encore voir cette pièce claire, aux murs garnis de trophées de chasse et de vieilles estampes, Sir Harry debout et s'agitant sur le devant de la cheminée, et moi-même étendu dans un fauteuil en train de parler. Je me figurais être dédoublé, debout à côté de moi-même, écoutant ma propre voix comme celle d'un étranger, et me demandant avec impartialité quel degré de crédibilité méritaient mes propos. C'était la première fois que je disais à quelqu'un l'exacte vérité, ainsi qu'elle m'apparaissait, et cela me fit un bien énorme, en donnant à mes yeux plus de consistance à la situation. Je n'omis aucun détail. Il le sut tout concernant Scudder, le laitier, le calepin, mes faits et gestes dans le Galloway. Mon récit le captivait de plus en plus, et il arpentait sans arrêt le fumoir. Comme vous le voyez, vous avez face à vous l'homme recherché pour l'assassinat de Portland Place. Votre devoir est d'envoyer chercher la police et de me livrer. Je ne pense pas en avoir pour longtemps en prison. Il y aura un incident où je recevrai un coup de couteau dans le ventre, une heure ou deux après mon arrestation. Néanmoins, c'est là votre devoir, en tant que citoyen respectueux de la loi. Peut-être, d'ici un mois, le regretterez-vous, mais vous n'avez aucune raison de penser ainsi. Il me considérait de son regard brillant et assuré. Il me demanda « Que faisiez-vous en Rhodésie, Haney ?» J'étais ingénieur des mines, j'ai réalisé là-bas une petite fortune, et je m'y suis bien amusé. Une profession qui n'amollit pas trop les nerfs, n'est-ce pas ? Je me mis à rire. « Oh ! Quant à ça, mes nerfs sont assez solides !» Je pris un couteau de chasse sur une étagère et exécutai le tour bien connu des mâchonnasses qui consiste à lancer l'arme en l'air et à la rattraper entre les dents, ce qui exige un cœur bien accroché. Il me regarda en souriant. « Je n'ai pas besoin de preuves. Je peux être nul comme orateur, mais je sais apprécier un homme. Vous n'êtes pas plus assassin qu'idiot, et je vous crois sur parole. Je souhaite vous aider. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Tout d'abord, j'aimerais que vous écriviez une lettre à votre oncle. Il faut que je prenne contact avec le personnel du gouvernement avant le 15 juin. » Il se tortilla la moustache. « Ça ne vous avancera à rien. Cette affaire regarde le Foreign Office, et mon oncle refusera de s'en occuper. D'ailleurs, vous ne le persuaderiez jamais. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais écrire au secrétaire permanent du Foreign Office. C'est mon parrain, le meilleur qui soit. Que faut-il lui écrire ? » Il se mit à table et écrivit sous ma dictée. En substance, je disais que si un homme du nom de Twisdon, autant garder ce pseudonyme, se présentait chez lui avant le 15 juin, il fallait lui réserver bon accueil. Le dit Twisdon prouverait son identité en donnant le mot de passe suivant, Pierre Noir, et en sifflant l'air d'Annie Laurie. « Bon, dit Sir Harry, c'est la méthode qui convient. À propos, mon parrain, il s'appelle Sir Walter Bullivant. Mon parrain passera la Pentecôte dans sa maison de campagne. Elle est à côté d'Artinsville sur Kennet. Bon, voilà qui est fait. Ensuite, vous êtes à peu près de ma taille, Sir Harry. Prêtez-moi le plus vieux costume de tweed que vous ayez. N'importe quoi, pourvu que la teinte soit complètement différente de celle des vêtements que j'ai abîmés cet après-midi. Puis montrez-moi une carte de la région et expliquez-moi la configuration du pays. Enfin, si la police vient me chercher ici, vous n'aurez qu'à leur montrer la voiture au fond du ravin. Si ce sont les autres, racontez-leur que j'ai pris l'express du sud après vous avoir rencontré. » Il fit tout cela ou promit de le faire. Je rasai ce qui me restait de moustache et revêtis un vieux complet de la teinte qu'on nomme, je crois, mélange bruyère. La carte me donna une idée de ma situation géographique et m'instruisit de deux choses que je voulais connaître. À quel endroit on pouvait rejoindre la grande voie ferrée du sud et quelles étaient les régions les plus désolées des environs. Thank you. À 2 heures du matin, mon hôte me tira du somme que je faisais dans le fauteuil du fumoir et me conduisit, mal éveillé encore, sous la sombre nuit étoilée. Ayant déniché dans un hangar à outils une vieille bicyclette, il me la donna. « Première route à droite, tout au bout de la sapinière, » me recommanda-t-il. « Au lever du jour, vous vous trouverez en pleine montagne. Là, vous pourrez abandonner le vélo dans un fossé et gagner la bruyère à pied. Pendant 8 jours, vous serez aussi en sécurité au milieu des bergers qu'au fin fond de la Papouasie. Jusqu'à ce que l'aube éclaircisse le ciel, je pédalais avec détermination sur les affreuses routes en gravier de la montagne. Quand le soleil se dégagea des brumes, je me trouvais dans un vaste paysage de verdure où des torrents se déversaient de toutes parts et que fermait un lointain horizon bleu. Là, du moins, je serais vite averti de l'approche de mes ennemis.